Radio Prague, les informations. Bonjour. À Prague, les chefs des diplomaties tchèques et britanniques se sont entendus sur le non-sens de livrer des armes à l'Ukraine. Le taux de croissance de l'économie tchèque au quatrième trimestre 2014 s'est élevé à 1,5%. Et puis enfin, en sport, en hockey sur glace, Jaromír Jágr quitte New Jersey pour la Floride. Comme il l'a déjà affirmé à plusieurs reprises depuis le début de l'année, le ministre tchèque des Affaires étrangères a de nouveau répété ce vendredi qu'il était opposé à une éventuelle livraison d'armes à l'Ukraine à l'issue de sa rencontre avec son homologue britannique Philip Hammond à Prague. Lubomír Zaorálek a déclaré qu'il considérait que des livraisons d'armes à l'Ukraine contribueraient à une escalade dans le conflit avec la Russie. Il nous semble incompréhensible de réclamer un cessez-le-feu d'un côté et d'envoyer des armes d'un autre, a expliqué Lubomír Zaorálek. Cette position est sensiblement identique à celle de la Grande-Bretagne. Toutefois, le chef de la diplomatie britannique a précisé qu'il entendait se laisser la possibilité de changer d'avis si la situation évoluait. Cette rencontre entre les deux hommes a également été l'occasion pour Prague de rappeler qu'elle était très attachée à la liberté de circulation des personnes au sein de l'espace Schengen. Le taux de croissance de l'économie tchèque au quatrième trimestre 2014 s'est élevé à 1,5%. Sur l'ensemble de l'année dernière, la République tchèque affiche donc un PIB de 2%. Les chiffres ont été communiqués ce vendredi par l'Office tchèque des statistiques. La demande intérieure, avec une consommation des ménages en hausse de 2%, et les exportations ont contribué notamment à cette croissance. Rappelons qu'au début du mois, la Commission européenne avait indiqué qu'elle prévoyait une croissance économique de l'ordre de 2,5% pour la République tchèque en 2015, un chiffre inférieur de 0,2 point à la prévision officielle annoncée par le ministère des Finances. Les effectifs de la police tchèque pourraient être augmentés de quelque 4 000 officiers dans les 5 prochaines années. Le président de la police, Tomáš Turi, a déclaré ce vendredi qu'il souhaitait faire passer le nombre total de policiers à 44 000 sur l'ensemble du territoire d'ici 2020. Selon lui, les effectifs actuels insuffisants ne permettent plus à la police de remplir correctement certaines de ses missions. On passe au sport. L'information faisait la une des pages sportives de tous les journaux tchèques ce vendredi. Jaromír Jágr quitte les New Jersey Devils pour les Florida Panthers dans la prestigieuse Ligue nord-américaine de hockey sur glace, la NHL. À 43 ans, celui qui est probablement le meilleur joueur tchèque de l'histoire connaîtra ainsi un 8e club en NHL. Échangé par New Jersey, distancé dans la course à la qualification pour les playoffs, Jágr rejoint la Floride avec pour mission d'aider les Panthers à la lutte pour la 8e place dans la conférence Est à se qualifier. L'ailier tchèque pourrait disputer son premier match sous ses nouvelles couleurs dès ce samedi contre Buffalo. On termine comme toujours avec un mot de météo, à l'exception du sud-ouest du pays qui profite de quelques belles éclaircies. C'est un temps très couvert qui règne ce samedi, jour de la fête des Lumières. Quelques averses sont possibles qui se transforment en chute de neige à partir de 500 mètres. Les températures varient entre 3 et 8 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel est le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de votre magazine d'actualité tchèque. Merci à Guillaume Narguet pour son bulletin d'information. Au sommaire de ce vendredi, dans le cadre des préparatifs pour le sommet Paris Climat 2015, la Commission européenne a publié une communication qui évoque les objectifs de l'Union européenne, à laquelle elle présentera à la conférence en fin d'année. La République tchèque en est satisfaite, mais certaines associations écologistes pas tant que ça. Pierre Maignan a essayé d'y voir plus clair. Puis nous vous proposons une première partie de l'interview que Guillaume Larguet a réalisée avec la nouvelle directrice de l'Institut français de Prague et avec son attaché culturel. La question est notamment des principaux événements qui nous attendent en 2015. Et enfin, dans la rubrique économie, nous revenons à l'édition 2014 du festival Jedensvet et plus particulièrement au partenariat entre ce festival des films sur les droits de l'homme avec une entreprise de restauration rapide. Nous allons découvrir les modalités et un premier bilan de cette coopération qui n'a cependant pas été reconduite pour cette année. Bonne écoute à toutes et à tous. En vue de la conférence de Paris, un sommet crucial sur le changement climatique organisé à la fin de l'année, la Commission européenne a publié mercredi son projet de réduction des émissions de gaz à effet de serre avec des objectifs que l'organisation écologiste Hnutí Duha, le mouvement arc-en-ciel, juge trop peu ambitieux. Et la République tchèque fait, selon elle, partie des États responsables de faire pression pour freiner les ardeurs européennes de lutte contre le bouleversement de climat. Pierre Maignan s'est penché sur la question.
Dans sa contribution En route pour Paris, qui doit encore être validée par les membres de l'Union européenne, la Commission confirme les objectifs négociés en octobre 2014, visant notamment à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030 par rapport à 1990. Pour Jiří Kojelo de Hnutí Duha, cette feuille de route est décevante.
Le problème principal dans ce que propose pour l'instant la Commission européenne, c'est que cela ne correspond pas aux modélisations réalisées par les scientifiques si l'on souhaite maintenir la hausse des températures sous le seuil des 2 degrés. C'est un réchauffement qui est déjà relativement dangereux. Il est donc nécessaire de limiter les besoins en combustibles fossiles davantage que ne le propose la Commission.
Directeur du département à l'énergie et à la protection du climat au ministère de l'Environnement, Pavel Zamilitsky juge pour sa part le document satisfaisant et équilibré.
Cet engagement paraît peu ambitieux pour le Hnutí Duha, mais pour la République tchèque, il n'est pas peu ambitieux. Nous considérons que cet objectif européen est le plus ambitieux au monde et nous avons donc un point de vue différent.
Hnutí Duha regrette que la Tchéquie se soit jointe au groupe des pays qui ont négocié pour réduire les ambitions environnementales de l'Union européenne. Argument souvent avancé, l'importance du secteur industriel en Tchéquie n'est pas pertinent, selon Jiří Kojelo, en comparaison à d'autres pays au profil similaire, mais dont la politique environnementale est plus audacieuse. Pour sa part, Pavel Zamilitsky estime que placer la barre trop haute n'a pour effet que de dissuader les gouvernements à s'engager dans la voie de la transition énergétique.
Les objectifs de la République tchèque sont consistants à long terme. Il faut surtout faire participer un nombre maximal de pays à ce processus international visant la réduction de l'émission de gaz à effet de serre. Une trentaine de pays seulement participent actuellement au processus de Kyoto, avec des objectifs définis à l'horizon 2020. Sur les 190 États du monde, cela n'est pas beaucoup. Il faut intégrer le plus de pays possible et adapter les objectifs pour qu'ils soient acceptables par tous et non par une trentaine de pays seulement.
Pour la coalition climatique, qui regroupe plusieurs organisations écologistes tchèques, dont Hnutí Duha, le potentiel de réduction des gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables est pourtant bien plus important sur le vieux continent. L'Europe a en effet la capacité de se fixer pour elle-même des objectifs plus ambitieux que ce qui sera sans doute négocié à Paris. À leur échelle, certains pays le prouvent, selon Jiří Kojelo.
Par exemple, la Grande-Bretagne s'est fixé son propre objectif de limiter les émissions de gaz à effet de serre de 80% d'ici à 2050, la France de 85%, et il y a d'autres exemples. Donc, d'autres pays de l'Union européenne, comme la République tchèque, sont en capacité de formuler des objectifs plus stricts.
Ce n'est d'ailleurs pas le seul point sur lequel il est possible d'agir.
Nous voulons principalement attirer l'attention sur l'importance de cette conférence de Paris qui concerne aussi les habitants de République tchèque. Il est ici possible de faire des choses pour limiter notre impact sur le climat. Par exemple, il doit être décidé cette année si les limites à l'exploitation de lignite seront maintenues ou non. Il est évident que si elles ne sont pas maintenues, il y aura bien plus d'émissions de gaz.
Dans sa déclaration de politique générale, la coalition gouvernementale dirigée par le social-démocrate Bohuslav Sobotka a inscrit noir sur blanc sa volonté de faire voter une loi sur la réduction de la consommation d'énergie fossile. Cet engagement est pour l'instant resté lettre morte et Jiří Kojelou souligne qu'il serait à propos d'agir sur ce point dès cette année en amont de la conférence de Paris.
Nouvelle directrice de l'Institut français de Prague depuis septembre dernier, Isabelle Guinel, a effectué une petite visite de courtoisie dans les studios de Radio Prague cette semaine. Accompagnée de son adjointe et attachée culturelle Charlotte Fouché-Ichy, ce passage a été l'occasion d'évoquer les principaux événements qui marqueront les échanges culturels franco-tchèques à Prague et en République tchèque en cette année 2015. Mais avant cela, Isabelle Guinel a d'abord expliqué quelle idée elle se fait de la place et du rôle de l'Institut français.
L'Institut, c'est quand même une organisation qui est ancrée dans l'histoire tchèque. Elle a été fondée par l'historien Ernst Denis en 1920. Donc c'est un héritage aussi qu'il faut porter. C'est un héritage qui nous a longtemps privilégié, puisque nous avons occupé une position après la Révolution de velours et au moment qui ont présidé à l'intégration européenne qui était importante. Maintenant, les temps ont changé. L'Institut français, c'est un établissement à autonomie financière. Donc ça nous oblige à faire des choix, à être très attentifs aux évolutions en cours. Et puis les temps ont changé parce que la scène pragoise, elle est devenue cosmopolite, vivante, concurrentielle. Donc nous devons aussi accompagner ce mouvement. Et puis il y a une relève générationnelle en cours. Donc voilà, c'est un institut qui aborde l'année 2015... Je dirais en voulant aller au-devant de nouveaux publics, parfois de publics qui sont peu ou pas avertis de la création contemporaine française et qui néanmoins sont ouverts à des partenariats de longue durée avec nous.
Lorsque l'on va sur le site internet de l'Institut, la première chose sur laquelle on tombe, c'est le projet Pölzagne 2015, Pölzagne capitale européenne de la culture. Qu'est-ce que cet événement signifie pour les Français et plus particulièrement donc pour l'Institut et tout ce qui est français ici en République tchèque.
Alors en effet, l'événement Pölzagne 2015, capitale européenne de la culture, est pour l'Institut français un événement majeur parce que c'est vraiment l'occasion à la fois à Prague mais essentiellement à Pölzagne et dans sa région, de faire découvrir la scène contemporaine et artistique française. Pour ça, on a travaillé étroitement avec toute l'équipe de Pölzagne pour proposer des projets assez différents et qui, je pense, attireront un public très, très large à Pölzagne. Premièrement, c'est vrai que nous avons fait venir le Manège Carré Sénart pour la pré-ouverture de cet événement qui a attiré 80 000 visiteurs entre septembre et novembre 2014. Et donc, ça a donné vraiment, je pense, un tremplin pour toutes les activités qui ont commencé le 17 janvier dernier avec une grande saison du nouveau cirque. Donc, sur la partie française, on a 6 compagnies qui vont venir présenter leur spectacle sur toute l'année, avec notamment Royal de Luxe et une création spécifique autour de la grand-mère et de son chien qui vont parcourir les villes de Pölzagne, les rues de Pölzagne. Autrement, nous avons aussi un événement autour de la bande dessinée avec l'invitation de l'auteur Emmanuel Guibert qui va venir en mai prochain à la fois animer des ateliers, mais aussi présenter donc les planches de son ouvrage qui raconte l'histoire d'un soldat américain au moment de la libération de Plzeň. C'est un ouvrage qui a été traduit en tchèque il y a quelques années. Et donc là, ça sera vraiment l'occasion pour les Tchèques de découvrir cet auteur et donc cet ouvrage « La guerre d'Alan ».
Avant cela, le début de l'année 2015, l'Institut français était marqué, entre autres, par le lancement d'une nouvelle carte appelée IF Pass, une carte qui permettra à ses détenteurs de pouvoir se considérer en quelque sorte comme des membres privilégiés de l'Institut. Pouvez-vous nous en préciser le principe, Isabelle Guinel et Charlotte Fouché?
Il s'agit d'une carte de membre IF Pass, donc pour nos usagers de l'Institut, justement ouvert à tous les publics, avec à la fois des avantages auprès de partenaires commerciaux, culturel, linguistique, mais aussi qui permet d'avoir une visibilité assez claire sur l'offre de l'Institut, avec la possibilité d'avoir des invitations en avant-première, avec aussi la possibilité de découvrir toute notre offre culturelle et aussi linguistique. Donc c'est une carte que les personnes peuvent acheter à l'Institut, à l'accueil ou à la médiathèque, qui leur permet à la fois d'avoir accès à CultureTech, cette plateforme qui permet d'avoir accès à des outils, que ce soit des films, des spectacles, des concerts, de pouvoir aussi découvrir toutes les nouveautés en matière de littérature, de bande dessinée et aussi
d'opéra, de festival. Voilà. En fait, il y avait des cartes différentes pour chaque espace de l'Institut. Et tout l'intérêt, c'est d'avoir une carte membre unique pour que nos publics puissent se croiser. C'est dommage, effectivement, qu'ils ne viennent que pour un sujet précis sans avoir nécessairement en tête l'ensemble de la palette qu'est l'Institut français.
Et précisons encore que nous vous proposerons prochainement de plus larges extraits de l'entretien avec Isabelle Guinel et Charlotte Fouché-Ishi, respectivement donc directrice et directrice adjointe de l'Institut français de Prague.
Et c'est la fin de ce Faits et événements et suit sur Radio Prague, notre rubrique économique. Le 2 mars débute à Prague la 17e édition du Festival international des films sur les droits de l'homme, Jeden Svět. C'est une occasion pour Radio Prague de revenir sur sa précédente édition et plus particulièrement sur le bilan de la coopération de l'organisateur, l'ONG L'Homme en détresse, avec l'entreprise Bagetteria Boulevard, son principal partenaire. En lien avec le thème de l'édition, le travail, Bagetteria proposait de donner du travail à toutes les personnes intéressées. Quel est le bilan de ce projet, récit du partenariat qui n'a pas été renouvelé pour l'année 2015.
Économie, commerce.
Le festival Jeden Svět en monde est un événement qui s'étale sur une semaine et qui ne se limite pas à la capitale tchèque puisqu'il fait également le tour des régions. Tous les ans, depuis 1998, il propose une sélection de nouveaux films documentaires sur les sujets les plus divers. Depuis quelques années, son organisateur, l'ONG L'Homme en détresse, Člověk v tísni, attribue un thème principal à l'édition en question. C'est autour de ce thème que se déroule une campagne médiatique de grande ampleur. Člověk v tísni, organisation non gouvernementale avec des moyens financiers limités, a décidé de se tourner vers la sphère privée pour y tisser des partenariats permettant de financer le festival et de faire sa promotion. La question qui se pose est donc délicate. Comment lier les intérêts d'une organisation qui ne génère pas de profit avec les intérêts d'une entreprise orientée, elle, vers la recherche du profit? Il faut noter que Jeden Svět est désormais une marque bien établie, un rendez-vous incontournable, surtout dans le milieu citadin, jeune, éduqué, qui se veulent sensibles aux malheurs du monde. Ainsi, Člověk v tísni ne rencontre pas réellement de difficultés à trouver des sponsors et des partenaires, car ceux-ci peuvent également être motivés par l'envie de donner une image plus sociale, plus responsable de leur firme. Au cours des 3 années consécutives, ce rôle de partenaire principal et peut-être également ce privilège incombait à Bagueterie Boulevard, une entreprise tchèque qui se spécialise dans la restauration rapide, proposant surtout sandwichs et salades. La société est une filiale du géant tchèque Crocodile qui propose ce type de chaîne de restauration dans 7 pays européens. Le premier restaurant, Bagueterie Boulevard, a ouvert en 2003 dans le 6e arrondissement de Prague. Aujourd'hui, la marque dispose d'une vingtaine de restaurants dont certains fonctionnent sous la forme de franchise. Eva Bartosheva, directrice de production du festival Jedensvet, évoque les premières années de cette coopération.
La coopération avec Bagueterie Boulevard a commencé en 2012 quand l'entreprise est devenue le partenaire général du festival. Le slogan principal de leur campagne était un jeu de mots « Il est impossible de baguettiliser certaines choses ». Tous les spectateurs ont pu recevoir un sandwich gratuitement contre un ticket présenté à la caisse. La coopération a continué en 2013. Le slogan était « Il vaut mieux se supporter que se manger ». Il correspondait au thème du festival sur la tolérance.
Člověk v tísni est étroitement associé au processus habituel d'élaboration d'une campagne médiatique pour le festival.
Nous connaissons le thème principal du festival à peu près au mois de septembre. Dès qu'il est fixé, nous présentons notre vision à nos partenaires. On discute avec eux et nous les encourageons à trouver un lien entre le thème de l'année et ce qu'ils souhaitent mettre en valeur de leur côté. Une communication étroite avec eux est importante parce qu'ils sont actifs dans un milieu différent du nôtre et nous voulons nous assurer que leur campagne est acceptable pour nous et pour les spectateurs.
Stanislav Pekárek, le chef de marketing chez Bagueterie Boulevard, revient sur la coopération en 2014.
To téma byla práce. Zase jsme jakoby přemýšleli, jakým způsobem to propojit.
Le thème principal portait sur le travail. Nous avons réfléchi à la façon de faire un lien avec ce que nous pouvons proposer. D'un côté, le festival montrait les difficultés de trouver du travail dans le monde actuel. Nous nous sommes dit que nous allions embaucher chaque personne qui le souhaiterait. Nous allions la former, lui proposer un travail à temps plein si elle travaillait bien. La campagne avait également un second volet. Nous savons que le public du festival est jeune, ce sont surtout des étudiants qui n'ont pas beaucoup de moyens pour soutenir financièrement l'ONG Člověk v tísni. Nous avons donc prévu de leur proposer un petit boulot, les payer et puis verser la même somme sur le compte de Jedensvet.
A to, co oni si vydělají u nás, tak my stejnou částku pošleme jednomu světu.
L'idée de combiner ces deux volets provient, selon Stanislav Pekárek, directement du directeur de Bagueterie Boulevard et de Crocodile, Petr Cichoň.
Ta kampagne je jakoby Made in Bagueterie Boulevard.
C'est une campagne Made in Bagueterie Boulevard. L'idée d'employer des bénévoles et puis de verser la somme qu'ils gagnent à Člověk v tísni est le fait du directeur de l'entreprise Petr Cichoň. Notre studio de création a complété cette idée par une sélection de citations de personnes connues, comme celle de Steve Jobs qui dit « Qui ne vient pas au travail samedi ne doit plus venir lundi ». Nous voulions montrer que rien n'est gratuit dans ce monde et que pour qu'une entreprise puisse faire de la charité, il faut d'abord gagner cet argent en faisant un bon travail.
Donner du travail à tout le monde qui se présente chez Bagueterie avec un billet du festival Jedensvet. Voilà un engagement à risque pris par l'entreprise. Un engagement qui s'est avéré très ambitieux.
Pour nous, c'était un grand...
Pour nous, c'est une grande inconnue. Nous n'avions pas la moindre idée du nombre de personnes intéressées par notre offre. Si cela allait intéresser une personne ou une centaine, nous avons visé une 50aine de personnes. Cela aurait constitué une somme importante à envoyer à Člověk v tísni et en même temps sans diminuer le confort de nos employés.
Concrètement, Bagueterie a mis en place un formulaire de travail et l'a distribué à la sortie des films du festival. Une fois ce formulaire rempli, il fallait se rendre au département des ressources humaines de l'entreprise et se mettre d'accord sur les modalités de la coopération. Néanmoins, la définition du groupe ciblé par la campagne a été difficile à établir. Eva Bartosheva explique.
Podle nás ta kampaň Bagaterie cílila na typické.
Selon nous, la campagne de Bagaterie a visé le public typique de notre festival. Ce sont en grande partie les jeunes âgés de 20 à 35 ans, étudiants à l'université ou jeunes professionnels, souvent des diplômés des sciences humaines.
Pracující lidé, často studenti humanitních oborů.
Être un chômeur, candidat en travail à temps plein, peu ou pas qualifié, et un étudiant désireux de faire un peu de charité en se faisant de l'argent de poche, les objectifs et les situations ne sont pas les mêmes. L'affaire se complexifie avec les règles exactes pour que l'argent gagné par une personne puisse être versé à Člověk v tísni. L'organisation elle-même ne connaissait pas les modalités exactes du projet. Stanislav Pekárek nous les a dévoilées. Pour atterrir donc sur le compte bancaire du festival, il fallait que la somme gagnée par employé bénévole corresponde à un mois de travail à temps plein ou à mi-temps. Cela représente un salaire allant de 7 000 à 15 000 couronnes, soit 250 à 540 euros. Pour un temps de travail inférieur à un mi-temps, la somme n'était pas versée à Člověk v tísni, de même que les heures effectuées au-delà du premier mois. Les conditions ont pu être particulièrement contraignantes pour les étudiants devant suivre leurs cours en parallèle. Pendant notre rencontre, il y a quelques mois de cela, Stanislav Pekárek nous a donné une idée des résultats de cette campagne médiatique.
Přihlásilo se nám 42 lidí do tohohle z toho programu.
42 personnes se sont présentées suite à la campagne. Leur travail s'est réparti tout au long de l'année. Pour cela, nous disposons seulement des statistiques provisoires. 27 personnes ont déjà commencé à travailler, dont 17 qui ont rempli les conditions pour l'envoi de l'argent à Člověk v tísni, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé au moins à mi-temps. Nous voulions éviter qu'une personne vienne pour 4 heures, à peine le temps de lui expliquer sa tâche. Ces 17 personnes ont généré une somme de 144 500 couronnes, 5 530 euros, qui sera envoyée au festival. Cela correspond à 2 259 heures de travail. 4 personnes ont été embauchées à plein temps et 15 autres continuent à coopérer sous forme de petits boulots ponctuels.
V trvalém pracovním poměru a z 11 dále spolupracujeme formou brigády.
Malgré nos efforts répétés pour recueillir un témoignage personnel, nous n'avons pas réussi à rencontrer un des employés qui a obtenu ce travail grâce à la campagne du festival. Nous avons également appelé Bagaterie Boulevard pour connaître le bilan final pour l'année 2014, mais les chiffres ne sont pas encore disponibles. Ils seront révélés à la suite de la nouvelle édition du festival Jeden Svět, organisée cette année sans le soutien de Bagaterie Boulevard. L'ONG Člověk v tísni n'a pas voulu commenter les raisons pour lesquelles la coopération avec Bagaterie n'a pas été reconduite. En faisant le bilan de l'édition 2014, Iva Bartošová est plutôt prudente.
De la part de nos spectateurs, nous avons eu des échos positifs de cette campagne. Cela avait un sens pour nous. Néanmoins, il revient à Bagaterie d'évaluer son succès en fonction du nombre de personnes qu'ils ont pu employer.
Pour promouvoir le festival Jeden Svět, l'entreprise Bagaterie Boulevard a donc présenté une campagne ambitieuse. Offrir du travail à toute personne intéressée aurait pu constituer un risque, surtout si un grand nombre de personnes se présentaient. Cela n'a finalement pas été le cas. Une relative opacité des règles et le groupe ciblé très disparate peuvent expliquer en partie. La coopération avec ce festival très populaire a permis à Bagaterie de se forger une image d'entreprise sensible aux sujets sociaux et peut-être d'accroître son attractivité aux yeux des habitués de Jeden Svět. Et qui sait, peut-être également d'occuper les postes vacants dans les restaurants nouvellement ouverts. Cette expérience a cependant mis en lumière comment il peut être difficile de combiner les intérêts commerciaux avec un projet non gouvernemental pour satisfaire les deux partenaires. Ainsi s'achève notre émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce programme qui vous a été présenté par Lucie Drechselová. Retrouvez tous nos articles sur le site www.radio.cz/fr. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Ahoy.